Voilà, nous allons reprendre cette journée. C'est Catherine Coquiot qui va ouvrir cet après-midi. Catherine Coquiot est professeure de littérature comparée à l'Université Paris Diderot, donc Paris 7. Et puis elle va publier, donc maintenant en 2013, tu nous diras quand précisément, Le mal de vérité chez Colin, La littérature en suspens chez l'Arachnéen et Tzigane nomade, un malentendu européen avec Jean-Luc Poyetto chez Cartala. Voilà, donc je te cède la parole, sachant que cet après-midi est dédié à la littérature, au savoir toujours, la littérature d'investigation sous le signe de l'enquête, témoignage et fiction documentée. Et Catherine Coquiot était certainement la mieux placée pour nous parler de cela avec le surplomb qu'elle a. Merci.
Il va falloir que je fasse alors si j'ai du surplomb. Eh bien, merci Sylvie. Je suis contente d'introduire d'être là d'abord et puis d'introduire cette séance où vont parler des écrivains qui viennent d'ailleurs, hein, ou disons qui parlent d'ailleurs, ou qui parlent d'une expérience qui s'est déroulée ailleurs, ou dans, disons dans un entre-deux, pas seulement des langues, mais des histoires. Et au fond, il y en a peu de ces écrivains au cours de ces journées, alors que l'existence d'une littérature à l'échelle mondiale, à mon avis, est l'enjeu contemporain le plus décisif en termes de savoir. Jérôme David, tout à l'heure, parlait de ce moment qui était le bon moment en France pour faire, au fond, un livre sur la littérature mondiale. Mais on pourrait se dire aussi que la France a beaucoup tardé à faire de ce moment ce bon moment. Il me semble que c'est par la littérature qu'on prend le mieux connaissance des univers qui ne sont pas les nôtres, que c'est par ce qui s'inscrit de complexe, d'irréductible dans les idiomes qu'inventent les textes littéraires, hein, lorsqu'ils sont autant de pays autonomes, comme le disait Heinz Wissmann en reprenant Bollack hier. C'est là que quelque chose d'autre peut se passer que tout ce qu'il y a de brutal et même de désespérant, un peu dans ce qu'on désigne par le terme de mondialisation, hein, dont on a parlé aussi ce matin. Et donc, je voudrais dire aussi mon trouble maintenant à devoir parler à la fois de tout ça, investigation, enquête, témoignage, fiction, documents. Ça fait une tripotée d'enjeux, tout ça. Si on compte tous les problèmes que recouvre chacun de ces mots, accolés aux mots littérature, plus tous ceux qui surgissent quand on les met côte à côte, hein, investigation et enquête, documents et enquête, ça va. Investigation et témoignage, passe encore. Témoignage et documents, c'est compliqué. Fiction documentée, alors c'est toute une arborescence de problèmes et un corpus en croissance exponentielle, peut-être à l'échelle mondiale aussi. Alors, on pourrait partir du mot investigation, de l'idée d'enquête, de l'idée d'enquêteur. Lorsqu'on parle d'investigation, souvent on évoque le personnage de Joseph Rouletabille, hein, Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, c'est 1907. Et un an plus tard, c'est la création aux États-Unis, dans le ministère de la Justice américain, hein, du bureau d'investigation qui deviendra une trentaine d'années plus tard le FBI. Bon, on est là dans les péripéties du fameux paradigme indiciaire évoqué par Carlo Ginzburg, hein, paradigme, bon, qui est né de l'activité de la chasse, va s'illustrer en littérature dans le roman policier. Le journaliste, comme le policier, revient sur les lieux du crime. Hein, Rouletabille, c'est celui qui dame le pion à l'inspecteur de police. C'est ceux qui retrouvent, hein, le journaliste et le policier, qui retrouvent les indices, qui retrouvent même les auteurs, les criminels, hein, sinon les restes de corps démembrés, comme c'est le cas dans le mystère de la chambre jaune. Un des jalons de l'histoire du journalisme d'investigation, puisque c'est cela qu'incarne Rouletabille, hein, c'est la création, on le dit parfois, de l'hebdomadaire Der Spiegel dans l'Allemagne d'après-guerre. Le journaliste, en circulant, en fouillant, on découvre des secrets, dénonce des scandales, révèle, publie des documents. À sa manière, donc, il écrit l'histoire, une histoire. Je rappelle que les créateurs de Wikileaks se réclament, entre autres, du droit de chaque personne à créer l'histoire. Alors, bon, je passe sur là. Ce qu'il faudrait réfléchir sur les effets de cette démocratisation numérique, hein, sur le statut à la fois du document et du texte, hein, bien sûr, hein, que ces textes relèvent ou pas du journalisme littéraire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces œuvres, hein, qui relèvent de ces notions-là, dont on me demande de parler, où l'auteur se met justement dans la position de l'enquêteur, du collecteur de témoignages ou du fouilleur d'archives, hein, qui soit au départ journaliste, écrivain ou historien, Et c'est important qu'il y ait un départ et une arrivée, parce que justement, il y a des mutations, et on en voit beaucoup aujourd'hui, et qu'il fictionnalise ou pas le personnage de l'enquêteur. Je vais citer en vrac des œuvres hein, qui relèvent de ces genres à la fois, et je le fais en vrac volontairement, simplement j'ai choisi, si on peut dire choisi, enfin, ce sont des œuvres que je trouve fortes, que je les aime ou que je ne les aime pas, il me semble qu'elles sont fortes toutes, pour ça je les ai retenues. Revue et corrigée de Peter Esterhazy, bon, j'essaierai de dire un mot à la fin, Lili Monoff d'Emmanuel Carrère, hein, le Jan Karski de Hennel, Goetz et Mayer de David Al-Bahari, Marilyn Dernière Séance de Schneider, La Supplication de Svetlana Alexeyevitch, Jerzy Kosinski de Jérôme Charine, Congo, une histoire de David Van Reybrouck, ou Le Livre des violences de William T. Wolman, la trilogie de Hatzfeld sur le Rwanda, ou encore Austerlitz de Sebald, Les soldats de Salamine de Cercas, 2666 de Roberto Bolaño, Histoire familiale de la peur d'Agata Tsutsinska en Pologne, ou L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu de Ivan Jablonka, Fukushima, récit d'un désastre de Michael Ferrier, ou encore Paysage de la métropole de la mort d'Otto Dovgulka, qui est le dernier revenu en date. J'ai oublié aussi le Hammerstein ou l'intransigeance de Enzensberger, mais j'en ai oublié bien sûr beaucoup d'autres. Sans doute, l'inscription dans un texte des chocs et des blessures de la violence historique, d'une part, mais aussi de l'énigme des vies ordinaires ou des vies extraordinaires, une certaine manière aussi de vouloir rejoindre l'histoire collective à travers ces vies individuelles, d'où le recours massif aux témoignages, mais sans renoncer au savoir historien, sans renoncer aux fameux documents, aux fameuses archives, au point que les historiens eux-mêmes donnent à leurs enquêtes un tour littéraire, ou certains d'entre eux, disons. La vogue de l'investigation littéraire touche à deux modes d'hybridation différents, celui constitué depuis longtemps en genre du reportage littéraire et celui plus expérimental, mais en courte consécration aujourd'hui, il me semble, hein, des enquêtes généalogiques et des récits familiaux, ou plus largement des écritures intimistes de l'histoire. La pratique de l'enquête me semble indexée au thème de l'archive et des traces en ce moment, plus largement, il me semble, qu'au journalisme littéraire, qu'au genre du journalisme littéraire. Et je crois qu'il y a un mythe contemporain de l'archive, peut-être de l'archive, plus que des archives d'ailleurs, comme il y a un survoltage du paradigme indiciaire, sans parler du survoltage du genre testimonial et de la démultiplication magique des témoins, avec tous les témoins de témoins, miraculeusement tirés d'une phrase de Paul Celan, qui disait pourtant exactement le contraire, qu'on ne pouvait pas témoigner pour le témoin. Dominique Viard a parlé d'éthique de la restitution à propos de ces récits de filiation. Ben, plusieurs des textes que j'ai cités sont des récits de filiation, à travers lesquels se raconte une histoire collective, nationale parfois, à d'autres moments, communauté éthique ou politique. Et il a parlé aussi de poétique du scrupule à propos de ce qu'il appelle les romans archéologiques, qui évitent la linéarité des romans historiques. Poétique du scrupule a utilisé la fiction hein, pour parler d'histoire, et il cite Hennel et Binet, hein, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Donc les enjeux semblent éthiques, hein, éthique de la restitution, la poétique du scrupule. Et de fait, on pourrait voir dans le corpus, le gros corpus hein, que compose ce type de texte, dont je citais un choix tout à l'heure, hein, une espèce de méditation éthique collective sur la conscience historique contemporaine, hein, en même temps que sur la valeur de la vie telle qu'elle va, la vie dans le temps, on va dire. Alors, comment ne pas faire de tout ça, voilà la réaction que j'ai eue en essayant de préparer quelque chose, comment ne pas faire de tout ça soit une soupe indigeste, soit une grosse tarte à la crème éthique. Parce que ces thèmes et ces genres qui thématisent le rapport de l'écrivain à la vérité en termes éthiques connaissent une vogue tout de même pour moi un peu troublante parfois, qui crée un certain malaise. Alors je ne voudrais pas évidemment cracher dans cette soupe-là, puisque j'ai contribué au fond à la cuisiner par mes travaux sur témoignages, littérature. J'ai fait un colloque il y a peu de temps sur littérature et histoire avec d'autres. Mais parfois on a de l'appétit plutôt pour ce qu'on n'a pas cuisiné. Alors je me suis dit, parler des nouvelles formes de l'essai, comme j'aimerais ça, du non-savoir, de la pensée du poème aussi, les vibrations du sens et du non-sens. Mais non, non, tout ça ne sera pas pour toi, comme dit l'ange de la révélation aux damnés à propos des merveilles de Babylone. Toi, t'es puni, tu vas parler du document, du témoignage, de la littérature empêtrée de la réalité historique et de préférence dans la pire réalité. les réalités qui sont insupportables, d'abord parce qu'elles ont lieu de telle manière qu'elles ne doivent pas s'écrire, ensuite parce qu'elles s'écrivent et parce qu'elles deviennent de l'histoire ou de la littérature, et c'est peut-être ça aussi le malaise. Alors, la rencontre de l'histoire et de la littérature dans la forme de l'enquête ou du témoignage ou de la fiction documentée pourrait être amenée à un phénomène qu'on connaît déjà, en fait, hein, celui de l'éclatement et de l'hybridation des genres littéraires. Ce serait une nouvelle extension des frontières de la littérature, hein, qui s'ajouterait aux mutations précédentes, sur lesquelles je ne reviens pas. Hein. Et l'étude de ces déplacements de frontières est, elle aussi, en croissance exponentielle, hein, qu'elles prennent l'allure d'une réflexion sur les genres factuels, le témoignage, ou sur les genres en vogue ou émergents, les fictions biographiques ou la factographie, ou sur l'usage littéraire de l'archive ou du document. Et dans ces nouveaux genres et brouillages, il en va bien, en effet, des métamorphoses de l'idée de littérature, hein, qui est une idée à laquelle on s'intéresse beaucoup aujourd'hui et qu'on historicise, et qu'on croise davantage maintenant avec celle d'histoire ou d'historiographie qu'avec celle de philosophie, alors que pendant longtemps, au fond, depuis la tradition du romantisme allemand, on pense la littérature davantage dans un rapport de double et de rivalité aussi avec la philosophie, plus qu'avec l'histoire. Mais il se passe précisément autre chose que cette extension, hein, des frontières de la littérature, hein, quelque chose de plus spécifique avec cette multiplication d'ovnis, hein, littéraires ou historiographiques, justement. Et il ne s'agit pas non plus d'un retour nostalgique à un avant de la séparation entre la littérature et les sciences, cette séparation qu'évoquait Dominique Viard au tout début de ce cycle. Cette séparation, c'était un aspect du processus de sécularisation propre aux sociétés occidentales et qui ne peut pas être enrayé, chacun en a conscience, je crois. Et les historiens qui enquêtent sur leur famille, leur ascendant ou sur leur mythologie privée, pour reprendre l'expression de Otto Dovkulka, ne font pas du Michelet, pas du tout du Michelet, pas plus que les auteurs de fiction ou de poèmes qui composent avec les témoignages et les documents. Donc il en va d'autres choses dans ce retour du réel ou au réel ou retour de l'histoire et qui a à faire avec la fameuse vérité, hein, dont on a prononcé le mot à plusieurs reprises déjà, cette vérité qu'on divise si souvent, si vite en deux, la vérité historique d'un côté, vérité littéraire de l'autre, hein, ou parfois en trois, celle du journaliste, hein, sans jamais que ça soit au fond clair ce qu'on fait avec cette division-là. Est-ce qu'il y a une vérité différente pour chaque métier, pour chaque genre, vraiment? Ou est-ce qu'il y en a plutôt une pour chacun, chaque individu, dans sa discipline, son métier, son genre, qui à chaque fois tente de parler à tous? Et pourtant, il y a bien des différences qui tiennent à l'usage du langage, au type d'usage du langage. Il ne suffit pas de composer un livre d'histoire, ni de mener d'une manière explicitement subjective une enquête familiale, ni évidemment d'exprimer une sensibilité personnelle pour qu'existe ce fameux pays autonome, c'est-à-dire un texte littéraire au sens fort du terme. Quel est le rapport propre de la littérature avec la vérité aujourd'hui, lorsqu'il est question, hein, de saisir ce type-là d'histoire qui comporte, on va dire, des crimes? Et est-ce que les mots littérature, histoire, journalisme suffisent à dire tout ce qui se joue du rapport contemporain avec la vérité? Je parle donc de la vérité des vies humaines qui se déroulent dans le temps. Dans son dernier journal, qui s'appelle Sauvegarde, qui est un titre qui est aussi une blague sur l'ordinateur, l'apprentissage de l'ordinateur, Imre Kertész cite une phrase de Sebald, tirée de ce qu'il appelle un grand livre de Sebald, c'est Luftkrieg und Literatur, qui a été publié en français sous le titre de La destruction comme histoire naturelle, et qui porte sur le tabou allemand des bombardements aériens des grandes villes allemandes, tabou d'après-guerre et qui a eu la vie dure, longue. Et Sebald voit dans la recherche de la vérité, la citation est trop longue pour que je vous la lise, la seule légitimation aujourd'hui de la littérature. Alors que, tirer des effets esthétiques, la vérité devant le spectacle de la destruction. Hein, alors que tirer des effets esthétiques des ruines et de l'anéantissement, c'est signer la mort de la littérature. Kertész note ça, la phrase sans la commenter, mais ce thème-là, hein, fait écho à beaucoup d'autres phrases de Kertész lui-même dans ses propres journaux, Journal de Galère, Chronique d'une métamorphose, dans les textes de l'Holocauste comme culture, hein, en particulier dans celui qui s'appelle Eureka, qui est son discours de réception du Nobel, hein, discours où il parlait en 2003 à propos d'Auschwitz, hein, d'une mise en suspens de la littérature. Auschwitz a mise en suspens la littérature, ce qui ne veut pas dire du tout un adieu à la littérature, comme certains l'ont dit, mais une mise en suspens. Due donc à cette ligne infranchissable, dit-il, hein, d'Auschwitz, et aux débauches de la langue de bois et des propagandes totalitaires qu'il a vécues aussi en tant que Hongrois dans la Hongrie communiste. et donc qui voue l'écrivain à un certain rapport à la vérité, et le survivant à une forme de responsabilité qui passe par le témoignage, où j'ai proposé de voir un schisme littéraire, à cause de ce suspens, dont Cartès n'est pas du tout le seul à parler. Dans ce même journal, Sauvegarde, Cartès se débat à plusieurs reprises à nouveau avec la littérature, la notion de littérature qu'il met à plusieurs reprises entre guillemets, à proportion qu'il semble s'en agacer. Par exemple, lorsqu'il est dans un congrès littéraire à Stockholm en 2001, il observe soudain avec distance le milieu où il est, les gens qu'il entend parler, il décrit un milieu de scribouillards qui s'écoutent les uns les autres et qui font de ça un commerce lucratif. Il parle de personnages tchékoviens. Et il dit « un monde en voie de disparition, la littérature », entre guillemets. Mais il dit plus loin, juste après, « je devrais travailler sur mon roman qui se tourne les pouces au fond de mon âme ». Donc il faudrait écrire un roman, encore et toujours, sans écrire de littérature, sans faire plutôt de littérature. Dans un autre passage du même journal, il dit « qui est en dehors, comme moi, ne peut produire de littérature ». Les policiers font de la littérature. Qu'écrit le juif ? Le juif écrit la Bible, le livre de ceux qui sont en dehors, en attendant qu'elle devienne officielle, c'est-à-dire le livre des policiers. Alors, les policiers font de la littérature, c'est une phrase qui est proche de celle qu'aurait pu écrire ou qu'a écrit pratiquement Mandelstam, aussi Mandelstam, dans Le bruit du temps, dans l'URSS stalinienne, un peu avant d'être écrasé par la machine stalinienne. Or, Cartès écrit cela en ce moment. Il en va donc d'une autre police, une police culturelle. Cette autre machine qui semble inévitable dès qu'on produit de la littérature, entre guillemets. Quelque chose s'enraye dans cette machine-là, précisément, avec le témoignage de la catastrophe, on va dire, puisqu'il y en a en fait plusieurs pour Cartès. Pour parler de celle de la Shoah, le juif, clairement, dans la phrase que je viens de vous citer, c'est l'écrivain survivant, c'est le témoin qui cherche dans la langue... non pas seulement un mode d'expression, mais un autre rapport à la vie, à l'expérience, une autre éthique. C'est véritablement une recherche de type presque philosophique qui s'effectue en littérature avec Cartès. Un autre rapport donc à la littérature. Et le vrai problème, dit Cartès, c'est que nous ne pouvons sortir de la langue et que le réel fuit toujours. Mais c'est bien de ce réel qu'il faut se soucier. Donc il y a toutes sortes d'enjeux dans ces thèmes, ces genres, qui décident d'une grande partie de notre paysage littéraire contemporain. Et certains relèvent tout simplement, je pense, de la stratégie éditoriale, le nec plus ultra étant parfois de rafler les bénéfices symboliques de la bonne conscience et du scandale à la fois. Mais c'est pour des raisons profondes et pas seulement mondaines que la mémoire, avec ses nouveaux mythes et ses nouveaux rites, nous enserre, nous tient ensemble, et que l'histoire nous attire constamment dans son antre. La question du quand, dans quand la littérature fait savoir, devient déterminante. Dans certaines circonstances, sous certaines conditions atmosphériques, la littérature s'impose de faire savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Elle s'oblige à le faire, elle élabore de nouveaux contrats avec le réel et aussi de nouvelles règles du jeu. Alors parmi ces contrats, il y a celui du témoignage, dont on a essayé d'écrire l'histoire, d'abord de théoriser comme un genre, le genre testimonial, qui est à mon avis une formule qui fait problème, et dont on a tenté de faire l'historicisation, alors en évoquant les grandes étapes, en particulier de la Grande Guerre, bien sûr, et du grand ouvrage de Norton Crewe, en 1929, témoin. Deuxième grande étape, la Seconde Guerre mondiale, les camps, la Shoah, la littérature concentrationnaire, le goulag, mais il y a, à mon avis, une précocité à théoriser le genre testimonial à partir de ces moments-là qui sont en effet absolument majeurs, mais qui conduisent à une sorte de formatage du genre et à mon avis à une fausse historicisation, forcément faussée en tout cas, surtout si on l'analyse simplement à l'intérieur des frontières nationales françaises. Et puis il y a la question du genre, c'est-à-dire est-ce que le genre est une catégorie de la production ou de la réception ? Que se passe-t-il lorsqu'il y a production de témoignages sans qu'ils soient reçus ou transmis, ni traduits ni transmis, comme c'est le cas des témoignages de la catastrophe arménienne, plus tôt que ceux de la Grande Guerre ? Alors, qu'en est-il du document ? Quand la littérature commence-t-elle de vouloir composer avec le document ? Je voudrais revenir sur... Il est intéressant les premiers, disons, qui ont en France commencé à réfléchir sur ce qu'ils ont appelé le parti pris du document, Philippe Roussin et Jean-François Chevrier, dans la revue Communication, dans deux numéros importants, 2001 et 2006, soit deux chercheurs en littérature et en histoire de l'art, tous les deux très attentifs à la portée politique de l'art, Jean-François Chevrier est un historien et théoricien de l'art et de la photographie, familier de la nouvelle objectivité, du style documentaire de Walker Evans. La formule de retour du réel que j'ai utilisée tout à l'heure émane en fait d'un historien et qu'on utilise beaucoup en fait en ce moment, émane d'un historien de l'art américain, Al Foster. Le retour du réel, situation actuelle des avant-gardes, c'est un ensemble de textes qui ont paru aux États-Unis en 1996 et en 2005 en France. Et dans ce livre, Foster réfléchissait au lendemain du postmodernisme et procédait à une généalogie des néo-avant-gardes artistiques en distinguant trois grandes étapes. Un âge industriel qui avait conduit à l'annulation de l'esthétique du beau, avec Duchamp. Un âge de la consommation où on dominait le simulacre et la fétichisation de la marchandise par l'image, le pop art. Puis un retour au réel en contrepoint au minimalisme et au conceptualisme après qu'ait été faite l'expérience d'une trop grande porosité entre le réel et le virtuel, une victoire trop affirmée du simulacre. Évidemment, cette analyse se transposerait facilement dans le domaine littéraire en prenant pour pivot le tournant linguistique ou le post-structuralisme. Foster, dans ce livre, faisait aussi une théorie de l'après-coup, inspirée de Foucault et de l'observation des phénomènes de réactualisation de modèles passés pour faire quelque chose de nouveau au présent. Et je crois que la question peut se poser pour la notion de document, justement, en littérature. Il me semble que ce qui se passe en ce moment avec le document s'appuie sur quelque chose qui existait auparavant et qui est réactualisé. L'année qui vient de passer, 2012, a vu se multiplier les réflexions collectives sur le document en littérature. Il y a un numéro de la revue Littérature qui s'appelle « L'usage du document en littérature », dirigé par Camille Blumfield et Marie-Jeanne Zanetti, où on parle de montage documentaire, de narration documentaire, celle où la littérature s'ouvre aux puissances du réel en empruntant au journalisme et aux sciences sociales leurs méthodes, tout en contestant leur pouvoir. Mais on parle aussi d'un style documentaire ou même d'un esprit documentaire. C'est la formule de Jacques Jouet, auteur de l'Histoire Poème, qui est un recueil de poèmes documentés qui évoque chacun un événement historique en explicitant la source. En décembre 2012, colloque qui s'appelle Littérature comme document à Louvain, qui posait la question de nouvelles formes de réalisme à l'œuvre dans la littérature de l'entre-deux-guerres. Alors là, c'était 1925-1935, qui présentait la littérature comme une structure ouverte à tout type de documents et qui pouvait elle-même devenir document, et qui citait Manhattan Transfer de Dos Passos, 1925, et Berlin Alexanderplatz de Dublin, 1929. Donc deux romans. Et en poésie, qui citait Dada et Sandrart. Et quelques mois plus tôt, il y avait eu un autre colloque à Aix-en-Provence qui s'appelait « Ce que fait le document à la littérature », mars 2002, avec là des bornes plus larges, chronologiques, qui allaient de 1860 à 1940, de Flaubert à Bataille, en passant par Zola, Schwab, Sandrart, Breton. Mais on pourrait bien sûr aller au-delà et voir dans le moment de l'après-Seconde Guerre mondiale une étape décisive dans ce phénomène, en citant par exemple « L'instruction de Peter Weiss »,« Babillard » d'Anatoli Kuznetsov, sous-titré « Roman document » et qui vient d'être réédité, extraordinaire livre, ou « Stalingrad » d'Alexander Kluge, ou les livres de Reznikov, « Testimony » ou « Holocaust ». Alors, je note que ce titre, « Ce que fait le document à la littérature », faisait écho, peut-être exprès, je ne sais pas, au titre d'un autre colloque qui avait eu lieu 2 ans plus tôt à Paris 8, qui s'appelait « Ce que fait le témoignage à la littérature », organisé par Frédéric Detu et Charlotte Lacoste, auteurs respectivement d'une thèse sur l'idée de littérature et sur le témoignage comme genre. La question de ce que la littérature fait savoir semble ici dépendante de ce qui lui est fait lorsque la pression de l'histoire est plus forte ou trop forte. Non pas lorsqu'elle vise un certain savoir sur le réel, ce qu'elle a toujours fait, en choisissant ses règles du jeu, bien sûr, mais quand elle fait entrer dans ce jeu propre-là, de la création littéraire, ce cercle magique du langage et des formes auquel elle se tient, celui de l'arbitraire d'auteur et de sa libre imagination infinie, Lorsqu'elle fait entrer dans ce jeu-là des contraintes venues d'ailleurs, celles d'un engagement particulier à l'égard de ce réel, soit qu'il s'agisse d'informer, de renseigner ou même d'instruire, c'est le cas du journaliste qui documente son savoir en prélevant sur le vif des fragments de réel et en les montrant, il y a une dimension, toutes ces dimensions-là sont là dans le doquerré de documents, montrer, instruire, ce sont des gestes qui entament l'autonomie du littéraire. Ou qu'il s'agisse de témoigner d'une expérience individuelle et collective, l'engagement du testis ou du superstes, comme on dit maintenant beaucoup, à l'égard de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a vécu, à l'égard du réel et aussi à l'égard des morts, soit pour faire preuve, soit pour élucider l'énigme qu'est devenue cette expérience, mais aussi l'expérience de la survie absurde, et pour en extraire un sens partageable, sinon une vérité. Ou encore qu'il s'agisse d'écrire l'histoire à partir de traces, de témoignages, d'archives, et les archives, au fond, ne sont rien d'autre que des documents conservés au-delà de leur usage originel, qui deviennent des sources pour l'historien ou des matériaux pour l'écrivain. Et parfois même, souvent, c'est à partir d'un manque d'archives, comme l'a rappelé Patrick Boucheron tout à l'heure, que doit écrire l'historien ou l'écrivain. Le fait que la notion de document soit aujourd'hui ramenée à l'archive et à la trace est, je crois, aussi un signe d'époque. Dans les années 60, le document était au contraire tiré vers le monument par Michel Foucault, en réponse à Erwin Panofsky. Je n'ai pas le temps de détailler ce que disait Panofsky. Dans Archéologie du savoir, en 69, Foucault proposait de traiter les documents en monument, bien sûr dans un usage métaphorique, de scruter les conditions de leur genèse et de leur transmission. Je résume Foucault. Transmission et jeunesse des documents, afin de pouvoir penser la discontinuité de l'histoire des idées, des sciences, des philosophies, de procéder ainsi de façon archéologique, au contraire d'une histoire continuiste qui traitait les monuments en documents. L'histoire donc, doit non seulement déchiffrer les traces laissées par les hommes, authentifier les sources, cela elle le faisait déjà, dit Foucault, mais elle doit isoler des groupes d'éléments pertinents, des ensembles, et faire apparaître les failles, les discontinuités. Et cette histoire discontinue, pour Foucault, allait bien sûr de pair avec sa critique radicale de l'humanisme. Patrick Boucheron, dans son livre « L'entretemps », revient sur cette question de l'anti-humanisme de Foucault, sur sa conception de la discontinuité historique. Et il cite des phrases violentes, volontairement violentes de Foucault, qui dit que l'histoire n'est pas faite pour trouver ni retrouver quoi que ce soit, ni même nous retrouver, mais pour couper. Il dit même que l'histoire n'est pas faite pour comprendre, mais pour trancher, diviser nos sentiments, diviser en même temps que le cours de l'histoire est maintes fois rompu. Et je me posais la question, au fond, est-ce que ce paradigme indiciaire survolté dont je parlais, tel qu'il se développe aujourd'hui dans la littérature et dans l'historiographie littéraire, on va dire, cette obsession des traces, est-ce que ça ne va pas exactement à l'inverse de ce que proposait Foucault, pour partie, en tout cas, il me semble que c'est le cas dans certaines formes littéraires de ce phénomène. Est-ce que les opérations et les dispositifs littéraires destinés à restituer ou à réparer, à témoigner et à transmettre, vont du côté de l'humanisme, d'un retour à l'humanisme, et en quel sens, et est-ce que c'est possible, où va cette quête? C'est la question que je me pose toujours. Tout se passe comme si les ruptures historiques, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles dont parle Foucault, évidemment, les catastrophes historiques, obliger ceux qui écrivent, qui cherchent un sens, qui cherchent une forme, à reconstituer une continuité et non à pratiquer cette violence épistémologique qu'invoquait Foucault. Mais je crois précisément qu'à l'intérieur de cette littérature de témoignages ou de cette littérature documentaire, il y a précisément division, il y a opposition, il y a conflit. Et que la ligne peut-être du conflit, de ces divisions, passe par justement la question de l'humanisme. D'un possible retour ou pas à l'humanisme, ou d'une continuité humaine même, concevable. Alors j'aurais voulu parler, mais je vais y renoncer parce qu'il faut que je m'arrête bientôt, ce débat tel qu'il a lieu dans le dialogue vif entre Solzhenitsyn et Chalamov. Au début des années 60, il y a une correspondance absolument passionnante. Toutes les lettres de Chalamov sont passionnantes d'ailleurs. Mais celle-là, elle est particulièrement intéressante à mon avis pour la question qui nous occupe et pour toutes ces notions. L'archipel du Goulag, c'est aussi une grande date dans l'histoire de la notion d'investigation, puisque ça s'appelait, dans la fin des années 50, début 60, ça s'appelait « Essai d'investigation littéraire ». Et lorsque Solzhenitsyn publie ce livre, Chalamov, lui-même auteur des récits de Kolyma, lui écrit, le salue, lui rend hommage pour ce témoignage clair et accusateur de toute une époque, cette coupe géologique dans un régime qui est une manière de refaire, de réécrire l'histoire de la terreur soviétique. Mais immédiatement après lui avoir, je résume l'essentiel de ce que je voulais vous dire, immédiatement après lui avoir dit bravo, il casse tout. Quasiment dans la même lettre, c'est-à-dire, il lui dit votre forme ne convient pas, le roman est mort, la forme que vous utilisez est une forme classique et par là même conservatrice. À cette objection, il en ajoute plusieurs autres qui portent précisément sur cette histoire de continuité de l'homme. Il lui reproche au fond de faire une part trop sûre, trop belle, à cette certitude que quelque chose de l'homme se continue, y compris dans le camp, y compris par le travail. Il y a aussi, par exemple, le refus de la conception que donne Solzhenitsyn du peuple souffrant. L'idéal du peuple souffrant, qui va aussi dans le sens d'un humanisme, d'un credo humaniste. C'est-à-dire que Chalamov lui dit à la fois que le roman est mort, que la fiction est une offense dans un certain sens, bien que lui-même, Chalamov, fictionnalise par moments ses récits, mais que l'auteur doit avoir une position absolument souveraine, pas seulement en tant que témoin, mais en tant que poète et écrivain. Et il lui reproche, par exemple, d'avoir montré, lorsque Solzhenitsyn était attaqué en public, après la publication d'Une journée d'Ivan Denisovitch, on l'a accusé d'avoir été en fait un déporté de droit commun et pas politique. Et donc d'avoir usurpé sa réhabilitation. Et donc Solzhenitsyn a montré le document, son certificat de réhabilitation. Et là, Chalamov lui dit « Jamais vous n'auriez dû sortir ce document. » C'est-à-dire qu'en sortant ce document, vous laissiez prise à cette question de la preuve qui ne doit pas faire intrusion dans le cercle du créateur. » Et la notion de document, par ailleurs, est reprise à son compte par Chalamov, mais dans un tout autre sens, pour penser et modéliser ce qu'il fait dans plusieurs de ses lettres, ce qu'il estime devoir être pour lui l'écriture. Il ne dit pas le témoignage, il dit le document, mais le document au sens où la vie est un document. Donc le texte, les récits, il faut inventer une nouvelle prose narrative qui puisse donner l'impression, et l'impression brutale, nerveuse du document qu'est la vie. Je voudrais terminer en évoquant au fond cette histoire, cette conception que les écrivains contemporains ont de l'histoire. Là, l'histoire au fond apparaît comme une espèce de gueule noire, de monstre, mais de diverses manières. Et ces manières sont aussi des manières, à mon avis, pas seulement éthique, justement, mais politique. Je voudrais citer ce que dit, ou résumer ce que dit Pierre Michon dans Les Onze. Je passe sur... Je pense que la plupart de vous ont lu ce roman, où il y a toute une série de jeux de brouillage, de vrai et du faux, où les références sont déguisées, où il y a une mise en perspective fictionnelle des formes d'historiographie, à propos de la terreur révolutionnaire. Et il présente l'histoire, il dit au fond, ce qu'il a voulu faire, clairement, c'est représenter l'histoire en tant que terreur, l'histoire comme pure terreur, dit-il. Et il évoque à ce moment-là la fascination des contemporains, les siens, je veux dire, pour la guillotine. La guillotine qui serait précisément l'image de la pure terreur. Et il ricane à ce moment-là dans son texte, c'est autour des pages 127-129, je n'ai pas le temps de les lire, sur la fascination pour le spectacle de la terreur. Et il est clair que pour lui, donc il y a à la fois une ironie portée sur cette fascination, mais c'est aussi cette espèce de mystique de l'histoire. Hein, il parle de la présence réelle de l'histoire. Hein, c'est aussi cette présence réelle de l'histoire qui l'autorise à réaffirmer cette position souveraine de l'écrivain et de faire du désir, hein, le principe sacro-saint absolu de son écriture, hein, principe de plaisir à l'œuvre, hein, qui déclare une guerre véritablement au principe de réalité, hein, et à leur chantre, hein, dans ce passage-là du texte, qu'il ramène à une troupe burlesque de réparateurs du passé. Et je voudrais opposer à ce discours-là, ce propos-là sur l'histoire, un autre propos qui vient d'une expérience historique évidemment fondamentalement différente. Je crois que le propos de Pierre Michaud est un propos très français, hein, sur une terreur très française et ultra patrimonialisée, donc spectacularisée à distance, hein, et c'est cette distance qui permet de ramener cette terreur à un problème de fascination, hein, qui renvoie à une forme de nihilisme propre à l'auteur. Hein. Mais de quelle terreur parle-t-on ici, hein? Quel écrivain et quel lecteur sont fascinés aujourd'hui par ce qui se passe en Syrie en ce moment même, par exemple? Il y a cet absolu du désir, hein, qui s'exprime dans Les Onze de Pierre Michon et qui fonde l'arbitraire de l'écrivain maître chez lui. Hein, il se retrouve cet absolu très vite mis en question dans les œuvres, dans d'autres œuvres, hein, qui naissent d'autres terreurs, hein, des terreurs beaucoup moins éloignées dans le temps, et qui posent des questions qui sont tout autres que celles d'un attrait ou d'une fascination pour la violence de l'histoire. Et là, je citerai pour finir le texte de Peter Esterhazy que je mentionnais tout à l'heure, Revu et corrigé. Hein, c'est un texte que certains d'entre vous connaissent certainement, hein, qu'il a écrit après un autre roman qui s'appelle Harmonia Celestis. Et dans les deux cas, il est question de son père, de sa famille et en particulier de son père, idéalisé, hein, dans Harmonia Celestis et Revu et corrigé, hein, qui fait précisément au contraire, hein, l'objet d'un document d'accusation absolument implacable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une mutation brutale de la fonction même du livre, éprouvée par Peter Esterhazy, qui jusque-là, lui aussi, jouait beaucoup de ces brouillages de fiction et du réel, hein, avec beaucoup de virtuosité. Et c'est de ces jeux de brouillage de la fiction, de fiction et du réel, c'est sur cela qu'il ironise dans ce livre Revu et corrigé. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que son père, hein, qu'il venait juste d'idéaliser dans le précédent livre, avait fait partie des services de sécurité hongrois et avait fiché, entre autres, toute sa famille et tous leurs proches. Et la découverte de ces dossiers, de ces quatre dossiers, hein, qu'ensuite il épluche, hein, qu'il fouille et qu'il donc corrige à sa manière, donne lieu à un type d'écriture absolument nouveau. Hein, et dans, au fond, tous ces textes, hein, qui tentent de dire quelque chose d'une expérience historique qui relève réellement du choc, il y a forcément des dispositifs nouveaux qui s'inventent. Hein, là, par exemple, la typographie dédoublée avec la couleur rouge, hein, qui est au départ celle du père qui parle, hein, auquel il ajoute ses commentaires à lui. Hein. Et il dit, voilà ce qui s'est passé dans cette histoire, il le dit au début de son livre, c'est que ben, à force de chanter la chanson du loup, le loup est arrivé dans mon œuvre. Il dit, je crois que le sens du livre peut se résumer entre deux phrases. Une phrase qu'il dit au début, j'ai voulu montrer que l'histoire avec un grand H a vraiment tout bouffé. C'est un livre terrible, hein, c'est un livre qui ironise, qui est très, très souvent drôle, mais aussi a beaucoup de larmes. Et il inscrit même la larme avec une lettre, hein, selon un code qu'il donne au lecteur au début, hein, à chaque fois qu'il pleure, donc il y a ce code. Et puis la dernière phrase du livre, c'est celle-ci, « La vie de mon père est la preuve immédiate, entre parenthèses, et répugnante, du fait que l'homme est libre. » Et les dernières pages du livre, hein, avant cette phrase, portaient sur la question de la responsabilité historique propre à l'écrivain, hein, qui plus est, un écrivain donc dans la famille Esterhazy est représentative, et c'est toute cette question de la représentativité qui fait l'objet de la réflexion ici, ancienne famille de Hongrie, hein, qui s'est empêtrée à ce titre dans l'histoire, hein, comme la Hongrie s'est empêtrée dans l'histoire, hein, comme elle continue d'ailleurs sans doute de s'empêtrer, et un empêtrement qu'il faut raconter jusqu'au bout en faisant se rejoindre l'histoire personnelle, et l'histoire collective, hein, l'histoire personnelle, l'histoire familiale, celle où personne dans la famille n'est responsable, par exemple, de la déportation des Juifs, et l'histoire historique nationale où finalement, quand même, les Juifs hongrois ont été déportés en masse et gazés. Il y a une nécessité, pour répéter Esterházy à ce moment-là, d'écrire une histoire entière, dit-il, ou de se taire, mais en disant pourquoi on se tait. Et cette nécessité oblige à travailler cette lacune, lui il utilise le mot lacune, entre les deux histoires, familiale et historique. Travailler cette lacune, c'est ce qu'il fait dans ce livre, pour faire rejoindre ces deux histoires, et ça suppose d'écrire autrement. Ça suppose en effet de mettre en suspens la littérature, hein. D'ailleurs Peter Esterházy est très apprécié par Kertész. Ça suppose de se souvenir autrement, de se corriger, de se surveiller sans cesse, d'avoir avec soi-même, autant qu'avec le passé familial, un comportement policier, et tout le livre file la métaphore de l'enquête policière, hein, joue avec l'idée que ce roman est un roman policier, mais qui doit revoir la première enquête policière pour effectuer la sienne. Hein. Je dois me conformer à la réalité, jusqu'à présent j'ai dû me conformer aux mots, dit Peter Esterházy. Donc, un autre moment, hein, lorsqu'il évoque le moment où il fouille, où il doit fouiller lui-même ses quatre dossiers accablants qu'on lui apporte des services de renseignement, Esterházy dit « il faut que je fasse tout moi-même ». Et je pense que cette expression, je vais terminer par là, hein, c'est bien de ça qu'il s'agit. L'écrivain, c'est le non-expert, mais qui doit par moment, comme ici, expertiser un dossier ou en tirer des conclusions pour son existence personnelle et pour l'histoire de la collectivité qu'à un moment, lui ou sa famille incarne. Voilà, excusez-moi, j'ai été trop longue.
Merci beaucoup, Catherine, et merci d'avoir évoqué la figure de Peter Esterházy plusieurs fois, que nous avons reçu naguère, qui, pour son œuvre, a été couronnée, mais surtout pour sa traductrice, mais il l'a partagée avec elle par le prix Laure Bataillon. Voilà, donc je suis très heureuse que tu l'aies ainsi évoqué.